France Culture.
Genesis. Στην αρχή το φως και η ώρα η πρώτη που τα χείλη ακόμη στον πυλό δοκιμάζουν τα πράγματα του κόσμου.
Οδυσσέας Ελίτης, Le Verbe la Lumière. Un documentaire de Yorgos Archimandritis, réalisé par Laure-Hélène Planchet. Odysseas Elitis n'est pas seulement une figure majeure de la poésie grecque du XXe siècle. Il est le poète de la luminosité et de la transparence, le poète de la spiritualité du monde sensible qui tente de percer le mystère de l'existence. Ayant développé très tôt une profonde conscience insulaire, Elitis a su faire du langage un rivage solaire, porté par la beauté transcendantale de son pays, par sa langue et son histoire millénaire. Tenir entre les mains le soleil sans se brûler, le transmettre au suivant comme un flambeau, est un acte douloureux mais béni, écrit-il dans son discours de la réception du prix Nobel de littérature en 1979. Un jour, les dogmes qui enchaînent les hommes s'effaceront devant la conscience inondée de lumière, tant qu'elle ne fera plus qu'un avec le soleil, et qu'elle abordera aux rives idéales de la dignité humaine et de la liberté.
Θα έλεγε κανείς ότι ήταν αναπόφευκτο ο Ελίτης να διαμορφώσει αυτό που λέμε νησιωτική συνείδηση.
Ιουλίτα Ηλιοπούλου, poète.
Το οποίο ήρθε και από επιλογή, αλλά
και από... On peut dire qu'il était inévitable qu'Ελίτης développe ce que l'on appelle une conscience insulaire.
Η καταγωγή των γονιών του στην Αποτηλέσσα.
Elle lui est venue à la fois par choix et par naissance. Il est né à Héraclion, en Crète. Ses parents étaient originaires de Lesbos et lui-même passa les étés de son enfance à Spetses. C'est intéressant, car si l'on regarde la carte de la Grèce, cela forme un triangle au centre duquel se trouve la mer Égée. Et pour Ελίτης, L'Égée n'est pas un lieu de vacances pour les Grecs et les étrangers. C'est la puissante identité grecque. C'est la civilisation cycladique, c'est l'unicité découlant de l'insularité grecque, c'est la métaphysique de la mer et du paysage. Il vivait à Athènes, mais portant en lui son bagage, son origine, son observation de la nature, notamment l'observation minutieuse de la nature à Spetses, il en est venu à façonner cette conscience insulaire qui domine absolument toute son œuvre. Il vivait dans une maison peuplée d'hommes, car il a perdu sa sœur très jeune. Il ne lui restait plus que des frères. Sa mère était une forte personnalité, assez pragmatique, tandis que son père semble plus proche d'Elitis de par son caractère. Mais il est mort en 1925 alors qu'Elitis était très jeune. Vivant sous la tutelle de son oncle et dans une famille dont l'activité, celle du père comme de l'oncle, était la fabrication du savon, il devait plus ou moins se diriger vers cette voie. Pourtant, sa nature étant tout autre, il a décidé d'étudier le droit, une discipline qu'il appréciait beaucoup. Mais finalement, il s'est tourné vers les lettres. Parlant de son enfance, il disait que tandis qu'un de ses frères collectionnait les ballons, lui collectionnait les revues. Très tôt, il a lu la Nouvelle Revue Française et des livres grecs. Et lorsqu'il a décidé de publier plus tard, ses premières publications datent de 1930, il a cherché un pseudonyme, car son patronyme, Alepou Delis, était étroitement lié à la savonnerie.
Je cherchais à trouver un nom qui commence par les lettres E et L.
Odysseas Elitis, Antenne 2, 3 mars 1980.
Parce qu'en grec E et L, il y a la liberté qui est l'eftheria, et Ellada, c'est la Grèce, Elpida, c'est l'espoir. Ça. Puis il y a la lettre Y, que j'aime beaucoup. Et il suffisait d'une terminaison normale grecque. Alors ça s'est formé tout seul.
Il a publié ses premiers poèmes dans les années 30, puis son premier recueil, Orientation, avant la guerre, en 1939. Il est intéressant de noter que tout en ayant une culture profondément grecque, il possédait aussi une culture française. Lors de deux périodes importantes, tant pour l'évolution historique de la Grèce que pour lui-même, en tant qu'adulte et artiste, il a trouvé refuge en France. La première fois, ce fut de 1948 à 1951, période durant laquelle il est entré en contact avec Thériade, un grand éditeur d'art d'origine grecque. Thériade l'a mis en relation avec des artistes mythiques comme Picasso, Matisse, Chagall, mais aussi Éluard, Breton, René Char. Ça a été une période de liberté, mais aussi de connaissance et de consolidation de ses choix esthétiques qu'il voyait réalisés dans une autre culture, un autre pays, et qui cependant lui était très familier grâce à la langue et à l'éducation française.
La Grèce est un pays de poètes et de musiciens. Mais il y a tant de poètes et tant de musiciens en Grèce que l'on est obligé de faire un choix, et ce choix est parfois très difficile.
Odyssée Elitis, au micro de Frédéric Potéchet, Radiodiffusion française, 1er janvier 1946.
Il me semblait intéressant d'amener devant le microphone un jeune poète grec très représentatif de son époque et de son temps. Monsieur Elitis a 35 ans. Monsieur Elitis est déjà très connu en Grèce. Il a publié un premier ouvrage en 1940 intitulé « Orientation » et un autre ouvrage en 1943 intitulé « Soleil premier ». C'est bien ça, n'est-ce pas, monsieur?
Oui, et quelques-uns de ses poèmes ont paru dans l'Arche à Paris et aussi dans l'Éternelle Revue. Ouais, je m'intéresse pour un renouveau poétique. Il y a eu un renouveau poétique en 1935. C'est l'année de la fondation d'une revue qui s'appelle les Nouvelles Lettres, et qui a réuni autour d'elle les jeunes écrivains et surtout les jeunes poètes qui étaient inspirés par les courants poétiques de la France.
De la
surtout.
France.
Nous étions tous en contact immédiat avec les poètes français,
oui,
et même avec les poètes surréalistes. Et Éluard, je le connais depuis 1930, il était très peu connu encore, et c'est lui qui m'a inspiré, je peux dire, à me vouer à la poésie. J'étais encore élève au lycée quand j'ai découvert Capitale de la douleur. Elle m'a impressionné fortement et je me suis mis à le traduire. Et après, j'ai traduit Pierre-Jean Jouve, qui me plaît aussi beaucoup, surtout les chants de Maldoror de Lautréamont, pour lesquels j'ai une profonde admiration.
Un jour, Elitis entre dans la librairie Kaufmann, qui était une grande librairie athénienne.
Malamatis Soufarapis, professeur de littérature et traductrice.
Et il tombe par hasard sur un recueil de poèmes de Paul Éluard, L'amour, la poésie. Elitis parlera de cette rencontre maintes et maintes fois en disant que ça a été un véritable choc. À partir de là, par tous les moyens, il va essayer de lire à Athènes toujours des textes de surréalistes français. Mais il y a aussi un de ses amis, Andreas Embirikos, qui était un poète surréaliste et aussi psychanalyste. Avec Embirikos, il continue à fréquenter les milieux surréalistes grecs et à s'intéresser à la source du surréalisme en France. Elitis reconnaît que le surréalisme a été pour lui une source d'enseignement et a été d'un bénéfice tout à fait extraordinaire. Mais, dit-il, le surréalisme a fonctionné comme un couteau à double tranchant. Parce que d'un côté, grâce à la rencontre des écrits surréalistes, Elitis s'est désinhibé. Ça a été une libération des contraintes qu'il se donnait lui-même. Le flux d'images qu'il peut lire chez Éluard notamment, les images qui s'entrechoquent, les mots qui s'entrechoquent entre eux, c'était quelque chose qu'il voyait pour la première fois et cela lui donne des ailes, on va dire. Mais d'un autre côté, très vite, il a conscience des dangers du surréalisme, notamment pour lui qui déjà veut travailler la langue. Elitis, dès les premiers essais de littérature, c'est quelqu'un qui travaille. Il s'est livré à l'écriture automatique par jeu avec ses amis surréalistes, mais ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est travailler la langue, précisément, et mettre sur le chantier 10 fois, 20 fois la même phrase.
Orientation. Éclat intelligible. Espace bleu. purification de l'âme. Comme si le bruit terrestre avait disparu, comme si la méchanceté de la mémoire avait cessé. Notre nouveau rêve vibre dans la pureté. Une main invisible nous tire par la main, là où le ciel innocent devient le calme, là où l'âme se montre inaltérable.
Chers amis, l'aventure poétique est une grande aventure.
Odysseas Sélitis, extrait de son discours de réception de docteur honoris causa à la Sorbonne, 23 février 1980.
Pour ma part, en me pliant aux exigences du prénom qui m'a été donné, j'ai volontiers accepté de la vivre et de la mener jusqu'à l'étape de cet après-midi qui revêt à mes yeux une valeur de symbole. Car si j'ai pu acquérir les vertus nécessaires à ma tâche, c'est parce que depuis ma plus tendre enfance, j'ai été formé à l'école de la poésie française. Et je m'empresse d'ajouter la meilleure école qui soit. Ceci n'est pas une vaine flatterie, je parle simplement d'un homme qui, depuis un demi-siècle, s'est battu avec les problèmes de l'expression poétique. Aussi bien que nous le voulions ou non, il est selon moi impossible de se lancer aujourd'hui à l'aventure poétique en ignorant ce que signifie, par exemple, le mallarméisme, l'alchimie du verbe de Rimbaud ou l'automatisme des surréalistes, pour ne citer que quelques exemples. Mesdames et messieurs, lorsqu'un peu avant la Seconde Guerre mondiale, étudiant alors à l'université d'Athènes, je découvrais dans des revues françaises la poésie et la peinture moderne, Le Corbusier, de son côté, parcourait les îles grecques et y découvrait dans l'architecture de leur maison le cubisme avant la lettre. Tout un univers d'analogies allait alors surgir. C'était un échange qui n'a jamais cessé de se renouveler, un échange plein de surprises de toutes sortes. Les sculptures d'un Brancusi ou d'un Laurence nous semblaient se rapprocher des idoles cycladiques, et les audacieuses métaphores des chansons populaires grecques, selon l'étrange mécanisme de l'imagination onirique, tel que nous l'enseignait dans les salles de cette même faculté l'inoubliable Gaston Bachelard. Tout devenait ainsi plus clair, plus lumineux, comme pour conjurer les forces obscures jaillies de l'époque, qui cependant grandissaient et allaient nous précipiter dans le plus atroce des carnages. Peut-être était-ce la lumière méditerranéenne qui nous unissait, radieux éclat, de cette civilisation gréco-romaine sur laquelle aujourd'hui encore repose l'Europe.
Un élément est demeuré très cher à Sélitis tout au long de sa vie et de son œuvre, c'est la lumière.
Malamati Soufarapis.
Mais pour parler de la lumière, il faut dépasser la simple réalité concrète de la lumière. Il ne s'agit pas seulement de la lumière naturelle produite par le soleil. Sélitis lui-même a parlé d'une métaphysique de la lumière, une métaphysique solaire.
Odysseas Sélitis, interviewé par Ivar Ivask en mars 1975. Les Européens et les Occidentaux voient toujours le mystère dans l'obscurité, dans la nuit, tandis que nous, les Grecs, nous le voyons dans la lumière, qui représente pour nous l'absolu. Pour expliquer ce que je veux dire, voici trois images. Un jour à midi, j'ai vu un lézard monter sur une pierre. Il n'avait pas peur, car je me tenais immobile et retenais même ma respiration. Et là, dans l'absolue lumière, il commence une véritable danse, une série d'incroyables petits mouvements gracieux en l'honneur de la lumière. Ce jour-là, à cet endroit, j'ai ressenti profondément le mystère de la lumière. Une autre fois, j'ai éprouvé ce mystère en mer, entre Paros et Naxos. Soudain, au loin, je vis des dauphins qui nous approchaient et nous dépassait en faisant des bonds à hauteur du pont. La dernière image est celle d'une jeune fille. Sur sa poitrine dénudée est venu se poser un papillon en plein midi, tandis que les cigales emplissaient l'air de leur chant. Ce fut pour moi encore une révélation du mystère de la lumière, mystère que nous, les Grecs, nous pouvons appréhender totalement et faire apparaître. Peut-être est-ce quelque chose d'unique à ce pays? Peut-être le perçoit-on mieux ici et que la poésie réussit à le révéler au monde entier ? le mystère de la lumière. C'est exactement cela que j'entends quand je parle de métaphysique solaire.
C'est un point très important de l'écriture d'Elitis. C'est aussi donc une vision du monde, une vision philosophique. Elitis, c'est un poète, certes, mais c'est aussi un philosophe. Il a lui-même beaucoup lu la philosophie. Et là, il crée un autre monde dominé par la lumière qui joue un rôle de révélateur. Et la lumière, c'est aussi celle qui annule le temps, c'est-à-dire la lumière met en rapport l'instant, l'instantané et l'éternel. Elitis identifie le soleil à la conscience. Il a beaucoup écrit sur cette métaphysique solaire. Je pense qu'il faut comprendre le mot conscience d'un point de vue cognitif, mais également moral. Et autour de cette conscience cognitive et morale, le soleil, gravitent les planètes qui sont les images, les métaphores, les comparaisons. C'est un système, je dirais, presque clos. Et donc, il n'y a pas la place dans ce système clos à des approximations, à des images automatiques. Chez Elitis, il n'y a pas la place à cela. C'est pour ça que pendant 2-3 ans, la poésie des surréalistes qu'il fréquentait à ce moment-là l'a gêné, en fait. Mais ça n'a pas duré longtemps. Très vite après, il est redevenu, ou bien devenu, Elitis.
Soleil premier. En buvant le soleil corinthien et déchiffrant les marbres, enjambant des vignes et des mers, marquant de mon trident les bancs de poissons dans les eaux, j'ai découvert ces pages où le chant du soleil récite la contrée où le désir s'éclot. Je bois de l'eau, cueille des fruits, je plonge la main dans les feuillages du vent, les citronniers irriguent le pollen de l'été, des oiseaux verts griffent mes rêves, et je m'en vais l'œil grand ouvert, là où le monde recommence.
Au-delà du lyrisme, de cette dimension lyrique très intense et de la dimension métaphysique, toute la poésie d'Elitis construit un système de valeurs. Je voudrais parler de la notion de justice. Je voudrais aussi parler de l'innocence, de la transparence, non seulement dans un cadre visuel, mais aussi dans un cadre spirituel. Dans son œuvre, la nature est un élément dominant. Certes, la nature porte les traits de son lieu, elle rappelle son histoire, les aventures de ses habitants, mais aussi la dynamique de son avenir. Ainsi, la nature, comme de très nombreuses notions chez Elitis, possède sa signification absolue, ou sa dimension physique, mais aussi sa dimension transcendante et métaphysique. C'est cela qui rend la poésie d'Elitis pluristratifiée. Et pour le lecteur, elle constitue une source ininterrompue de découverte des différents niveaux. Le lecteur ne cesse jamais d'être surpris.
Chant héroïque et funèbre pour un sous-lieutenant tombé en Albanie. Il gît à présent sous sa capote roussie, avec un coup de vent figé dans ses calmes cheveux, avec une branche d'oubli sur son oreille gauche, il a l'air d'un jardin qui soudain perdit ses oiseaux. Il ressemble à un chant dans les ténèbres bâillonnées, à une montre d'ange qui s'est arrêtée quand les cils eurent dit « Au revoir les gars !» et la surprise se fit de marbre. Il gît sous sa capote roussie. De noirs siècles autour de lui, avec des squelettes de chiens, hurlent contre le terrible silence. Et les heures, redevenues des colombes de pierre, écoutent attentives. Mais le rire s'est consumé. La terre s'est faite sourde. Personne n'entendit l'ultime cri. L'univers tout entier s'est vidé avec l'ultime cri. Sous les cinq cèdres, le casque vide, le sang bourbeux. Près de lui, le bras inachevé, et entre les sourcils, un petit puits amer, marqué du doigt par le sort. Un petit puits amer, rouge et noir, puits où se glace le souvenir. Oh, ne regardez pas, oh, ne regardez pas d'où s'est enfuie la vie. Ne dites pas comment s'échappa la fumée du rêve. Ainsi donc un instant quitta l'autre, et ainsi le soleil sans âge quitta soudain le monde.
La fonction de l'histoire dans sa poésie est aussi capitale, si on pense notamment aux deux recueils de poésie.
Christos Nicou, enseignant-chercheur.
Chant héroïque et funèbre pour le sous-lieutenant tombé en Albanie, écrit en juillet 1942. Donc Elitis, il est, si je puis dire, né dans l'histoire. En 1940, lors de la Seconde Guerre mondiale, il est mobilisé comme sous-lieutenant contre les Italiens sur le front d'Albanie, lors du déclenchement du conflit en Grèce. En novembre 1940, l'état-major se replie à Kalambaka et à Metsovo, et en décembre, il est envoyé sur le front albanais en zone de combat. Sur le front, il est atteint au dos par un éclat d'obus, ce qui le cloue au sol durant des heures. Et finalement, en 1941, il contracte la fièvre typhoïde. Donc il est rapatrié et hospitalisé à Ioannina. Et ensuite, après des péripéties, il est transféré à Athènes. Ce qui l'a marqué au fer rouge, c'est vraiment cette expérience de la guerre, cette expérience douloureuse et la violence de cette guerre, au point de l'aider à forger une nouvelle conception esthétique et idéologique et à transformer sa manière d'envisager le monde, aussi bien poétique que réel. Donc la relation entre la poésie et l'histoire a été toujours chez Elitis inextricablement liée, puisque le poète se trouve en position d'affronter des événements majeurs du passé, et ce faisant, de donner un sens substantiel à leur propre présent. Et puisque je parlais du chant héroïque et funèbre pour le sous-lieutenant, je dois aussi mentionner l'Actionesti, qui est son œuvre la plus connue. Donc, profondément marqué par les traumatismes, il commence à travailler l'Actionesti assez tôt, mais finalement, il a été publié plus tard. Et il y avait au début trois recueils, une trilogie. D'une part, le chant héroïque et funèbre pour le sous-lieutenant tombé en Albanie, l'Actionesti et finalement l'Albaniade, qui n'appartient pas au corpus canonique finalement d'Elitis.
Actionesti, prophétie. Et réglant leur compte aux œuvres des anciens dirigeants, le grand tout frissonnera. Un fracas terrible fondra sur l'enfer et la cloison s'écroulera sous la pesée géante du soleil. Mais avant, voici que gémiront les jeunes, et sans raison leur sang chancira avant l'âge. Tondu, des condamnés taperont de la gamelle contre les barreaux, et l'on évacuera toutes les usines, et sur réquisition on va les remplir à nouveau pour y produire des rêves conservés dans des milliers de boîtes, et y embouteiller la nature de toutes les façons. Puis viendront des années pâles et languides, enveloppées de gaz, et chacun aura droit à quelques grammes de bonheur. Et les choses en lui feront encore de belles ruines. Alors, n'ayant point d'autre exil où aller lamenter, le poète, de sa poitrine ouverte donnant libre cours à la santé de la tempête, reviendra dans les ruines, se camper au milieu de la beauté. Et le premier mot du dernier des hommes sera pour dire à l'herbe de pousser, à la femme de paraître à son côté radieuse, comme un lever de soleil. Et de nouveau, il adorera la femme, il l'accouchera dans les foins comme il fut écrit. Et les rêves prendront leur revanche et sèmeront des générations dans les siècles des siècles.
Le titre Actionesti est tiré de l'office religieux orthodoxe chanté le vendredi saint ou le vendredi des passions, comme on dit. C'est un poème temple, en fait. C'est un oratorio, un hymne à toutes les Grèces, l'ancienne, la byzantine, celle des guerres de l'indépendance, celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire de l'époque d'Elitis, qui sortait à peine de l'occupation et de la guerre civile sanglante, ainsi qu'à ses traditions, ses paysages et surtout sa langue. L'Actionesti se compose de trois parties, la Genèse, la Passion et l'Élode. La Genèse constitue les sept marches du temple, la Passion est le péristyle et l'Élode sont la nef. Donc la première partie, la Genèse, comprend sept unités, les sept jours de la création. La Passion forme le noyau de l'œuvre et renvoie à la Grèce présente. La Passion ou les Passions se composent de 18 psaumes, de 12 intermèdes lyriques et de 6 lectures en prose. Donc cette combinaison de trois modes d'expression permet au poète d'assurer la présence de l'histoire justement. Cette partie parle de la liberté, de la langue grecque, de la solitude, des complaintes du poète adressées à Dieu à propos de la destinée du peuple grec, de l'esclavage, de la guerre civile, etc. Et enfin, dans les Laudes, est célébré tout ce qui mérite d'être loué et s'esquisse le monde tel que le poète le rêve. Le contenu des Laudes est une louange à la beauté et à la pérennité du monde grec.
Très important chez Elitis, c'est son processus créatif. Tout part d'une impulsion. Le mot impulsion, c'est un mot qui vient d'Elitis. Une impulsion qui est à la fois idée et sensation, élément mental et plastique, un état hybride. Donc la sensation est première, et cette sensation première, elle est très rapidement en même temps idée. À partir de cette sensation, il y a une projection mentale associée à un élément plastique, c'est-à-dire que ça devient image en même temps. J'aimerais là donner un exemple vraiment magnifique de la genèse d'Actionesti, qu'il date de mars 1948 à son arrivée en France, fuyant la Grèce qui était alors en pleine guerre civile. Elitis parle. Je me souviens, sur la route qui menait à l'aéroport, des petits Grecs, pieds nus, affamés, jouant parmi les ruines. J'arrive en France et je vois, courant dans les parcs ou montés sur de petits chevaux, des enfants étrangers aux joues roses. L'opposition était si grande que je fus pris de désespoir et d'une envie d'implorer. C'est ce qui généra la première conception d'Actionesti, quelque chose qui ressemblait à un psaume et à une ode, une litanie, une liturgie, pour exorciser les mauvais esprits qui s'acharnaient sur mon pays. Plus tard, bien sûr, cela prit la forme d'Actionesti. Certes, je l'écrivis à mon retour, mais l'idée était venue de la confrontation entre la richesse, la vie insouciante qui régnait sur la Côte d'Azur et la tragédie qui, au même moment, avait lieu dans les montagnes grecques. C'est ainsi. Les réactions adviennent, avec pour conséquence le surgissement d'idées nouvelles. C'est un texte d'une clarté, d'une limpidité extraordinaire.
Ανοίγω το στόμα μου κι αν αγκαλιάζει το πέλαγο. Thank you.
η σχέση της ποίησης του Ελίτη με τη μουσική.
Ιουλίτα Ηλιοπούλου.
Ο Ελίτης είναι ίσως από τους πιο μελοποιημένους, αν θέλετε.
Ελίτη είναι sans doute l'un des poètes les plus mis en musique. Bien que nombre de ses poèmes soient très difficiles et ne s'y prêtent pas immédiatement. Mais quand on parle de la mise en musique d'Elitis, on parle d'œuvres comme Actionesti, qu'à première vue, un musicien n'aborderait pas. Mikis Theodorakis, en 61-62, lorsqu'il a lu le livre qui répondait alors à ses propres recherches, a eu une réaction immédiate et a commencé, en le lisant, à en mettre une partie en musique. Une partie seulement, car Actionesti est un vaste poème. Theodorakis a créé une œuvre hybride, comme il la qualifie lui-même, car elle comporte des éléments symphoniques, mais aussi de très nombreux éléments de musique populaire. La mise en musique de Actionesti par Theodorakis contribua à ce que cette œuvre profondément spirituelle atteigne un très large public. C'est pour moi profondément émouvant, et c'est un accomplissement que de permettre à la musique d'entrer dans la bouche, la conscience, l'âme de tant de gens.
Belle, mais étrange patrie, que celle qui m'a été donnée. Elle jette les filets pour prendre des poissons, et c'est des oiseaux qui l'attrapent. Elle construit des bateaux sur terre et des jardins sur l'eau. Belle, mais étrange patrie, que celle qui m'a été donnée. Elle menace de prendre une pierre, et elle renonce. Elle fait mine de la creuser, et des miracles naissent. Belle, mais étrange patrie, que celle qui m'a été donnée. Avec une petite barque, elle atteint des océans. Elle cherche la révolte et s'offre des tyrans. Belle, mais étrange patrie.
Υπάρχουν πολλές μελοποιήσεις τραγουδιών. Είναι άλλη περίπτωση για την οποία πρέπει να
μιλήσω λίγο. Je dois parler d'Angélique Kionatos, qui a consacré une grande partie de son travail de composition à Elitis. C'est une personnalité singulière, par le charme de sa présence scénique, par son instinct musical. Elle défendait la musique, non seulement avec son esprit, sa composition ou sa voix, mais aussi avec son énergie vibrante en scène. Elle défendait la musique, elle défendait la langue grecque. Un autre exemple encore est celui de la relation de Yorgos Kouroupos avec la poésie d'Elitis. Kouroupos a mis en musique de nombreux poèmes d'Elitis. Mais ce qui pour moi constitue un moment exceptionnel, c'est la mise en musique du poème Monogramme. Kouroupos a réussi, avec sa sensibilité propre, à le lire et à le mettre en lumière, si j'ose dire. Il n'en a pas seulement mis en musique les parties de manière envoûtante, il en a intensifié un second niveau, le niveau social si l'on veut, en de nombreux endroits de l'œuvre.
Πένθω τον ήλιο και πένθω τα χρόνια που έρχονται. Χωρίς εμάς και τραγουδώ τα άλλα που πέρασαν.
Ses premières relations avec la peinture datent de sa petite enfance. Elitis s'adonne à des essais de dessin et il regarde, il est intéressé par la peinture. Ensuite, très tôt, il pratique lui-même la peinture sous deux formes. Alors, la peinture avec des tempéras, ce mélange de blanc d'œuf et de pigments, et il réalise des œuvres vraiment très belles. Et également, il s'adonne au collage où, en fait, il le dit lui-même, il reproduit d'une certaine façon ce qu'il arrive à obtenir dans sa poésie, c'est-à-dire un choc entre les images, une juxtaposition, mais cette fois-ci plastique. Par exemple, la mer, une jeune fille, un arbre, un figuier, que sais-je. Donc des éléments qu'il a découpés et qu'il a recomposés. Elitis s'adonne à la peinture à des moments très précis de sa vie, notamment quand il a envie et quand il a besoin de se reposer. Le travail de l'écriture est un travail fatigant, parce que Elitis, c'est quelqu'un de très exigeant à l'égard des autres, mais avant tout à l'égard de lui-même. Donc, un texte, il le travaille, le retravaille, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Pour se reposer, il y a la peinture, les tempéras, les collages. À deux moments particuliers de sa vie, il s'y adonne vraiment comme avec une urgence. C'est pendant l'occupation nazie en Grèce, donc de 40-41 jusqu'à 44, pendant cette période noire, et d'autre part, pendant la dictature des colonels, avant qu'ils ne partent en France. En effet, en 69, Elitis décide de s'auto-exiler à Paris. Elitis ne cesse vraiment tout au long de sa vie, non seulement de s'intéresser à la peinture, mais de parler de la peinture et de faire de la peinture.
À livre ouvert, Yannis Tsaroukis. Dans l'art, la chose la plus originale, c'est nous-mêmes. C'est aussi, par malheur, celle dont l'approche est la plus difficile. Jouer le monstre et terrifier son entourage demande moins de courage qu'il n'en faut pour se regarder posément dans le miroir, pour articuler ce qu'on perçoit, et par-delà, pour le transmettre aux autres à tout jamais. Il existe, très loin, dans les profondeurs de notre âme, un minuscule recoin que nous pourrions nommer l'inimitable, et qui constitue notre empreinte digitale dans l'expression, une façon privée de rendre la vérité, dont le temps reconnaît exclusivement le premier exemplaire. Ce lieu inaliénable est celui où, dans l'enfance, l'imagination dépose les œufs dont éclora plus tard le mythe personnel. Et c'est encore en ce lieu que l'émotion doit conduire les choses, quand vient pour elle le moment de passer dans l'expression, afin de les doter d'une substance inaltérable, unique. Il s'agit d'une démarche dont l'artiste ne peut pas se faire a posteriori un chemin à suivre, car l'immédiateté ne se laisse jamais décomposer. Mais très souvent, une sensation, une simple sensation, quand vous vous y attendez le moins, vous êtes à tenter le saut. Et à ce moment, vous découvrez que ce qui se produit à l'échelle de l'homme se répète à l'échelle du groupe dans lequel cet homme se trouve intégré en tant que dépositaire en titre de ses traditions.
L'usage qu'Elitis fait de la langue grecque est véritablement particulier.
Malamatis ou Farapis.
Et caractéristique de sa prose comme de sa poésie. Elitis joue avec différents claviers. Le mot clavier est un mot employé par Elitis lui-même pour désigner les différentes strates de la langue grecque, qui est une langue, ne l'oublions pas, qui date d'il y a 3000 ans. Et Elitis souvent dit « Depuis Homère, on a cessé d'écrire de la poésie jusqu'à nos jours. » Donc, Elitis joue sur un clavier qui comprend plusieurs strates. Et il y en a au moins 4 ou 5. C'est la strate antique, la langue antique, la langue byzantine du Moyen-Âge, la langue savante, que en grec on va appeler katharevousa, la langue puriste aussi en d'autres mots, qui est une langue qui a été reconstituée par les Grecs lettrés vers le 18e, 19e siècle. Et enfin la langue démotique, la langue du peuple, et même aussi la langue idiomatique, c'est-à-dire parlée par les individus. La difficulté de la langue d'Elitis consiste précisément dans la concomitance de ces strates, à l'intérieur d'un même texte, mais également à l'intérieur d'une même phrase. Il faut savoir aussi que Elitis n'hésite pas à créer des mots. Je voudrais insister sur sa syntaxe, c'est-à-dire l'ordre des mots, non seulement dans un texte entier, mais également à l'intérieur d'une phrase. Elitis a recours très souvent, et là je parle des proses, à des phrases nominales, donc des phrases sans verbe. Et souvent, on assiste à une accumulation de phrases nominales, une espèce de cascade, qui donne une particularité à sa langue, un rythme à sa langue. Tac, 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 tac. Et quel effet produit ce rythme particulier ? Eh bien, ça donne ce ton, cette tonalité particulière chez Elitis, qui est un ton, comment dire, direct, énergique, vigoureux, qui, d'une certaine façon, ne laisse pas place à la réplique.
Qu'est-ce qui est impossible à traduire chez Elitis ?
Paola Maria Minucci, professeure de littérature et traductrice.
Elitis utilise une langue qui est la langue grecque unifiée, ancienne, byzantine, moderne. L'italien, en revanche, c'est de l'italien contemporain. Ma traduction ne peut pas comprendre le latin et l'italien en même temps. Cela ne peut pas passer dans la traduction. Mais d'autres choses passent. Bien sûr, lorsqu'il crée un néologisme, il est difficile pour moi de trouver un néologisme équivalent en italien. Chez Elitis, la langue est la chose la plus importante. Lui-même disait que les pensées et les sensations naissent de la langue. Quand Elitis dit « mer », c'est une difficulté très grande pour la traduction, car le mot « mer » est féminin en grec. Pour Elitis, elle prend souvent la forme d'une femme. En italien, en revanche, c'est un mot masculin, il mare. Et cela pose un gros problème. Je ne peux pas le féminiser, c'est un obstacle insurmontable en traduction. Parfois, je peux contourner le problème. Mais Elitis dit que tout naît de la langue. Je le cite. Si en Grèce, je dis thalassa, cela me donne certaines images. Pour un Américain, the sea, c'est l'océan. Ce n'est pas la mer de Grèce. Car Elitis dit que la mer de Grèce est un jardin. On a toujours d'autres îles devant soi. C'est un peu comme un lac. Donc c'est une mer amicale, pas hostile, comme pourrait l'être l'océan en Amérique. Ainsi, la langue engendre le poème.
Ma poésie, surtout en général, la poésie est très difficile à traduire. Mais ma poésie, personnellement, est très difficile parce que je fais beaucoup de jeux de mots et en plus de mélange du grec ancien, du grec du Moyen-Âge et du grec moderne.
Odysseas Elitis, Antenne 2, 3 mars 1980.
Alors, on ne peut pas trouver ces correspondances dans une autre langue toujours. Parfois, oui, mais il faut que ce soit un poète. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle en France, il n'y en a pas de traduction parce que je connais la langue et je ne peux pas donner facilement le droit. J'ai un tiroir plein de traductions qu'on me soumet de temps en temps, mais je vois la trahison, alors je ne peux pas donner la permission.
Le petit navigateur. Nous marchons depuis des milliers d'années. Nous nommons le ciel Uranos et la mer Thalassa. Tout changera un jour, et nous avec, nous changerons. Mais notre nature, irrémédiablement, restera gravée dans la géométrie que nous avons méprisée chez Platon. Et dans cet espace, quand nous nous pencherons, comme parfois nous nous penchons au-dessus de l'eau de notre île, nous trouverons les mêmes collines brunes, les mêmes baies et capes, les mêmes moulins à vent et les mêmes chapelles, les petites maisons qui s'appuient les unes sur les autres, et les vignes qui dorment comme de petits enfants, les coupoles et les colombiers. Je ne veux pas dire ces choses mêmes. Je veux dire les mêmes mouvements naturels et spontanés de l'âme qui génèrent la matière et la disposent dans une certaine direction. Les mêmes tremblements, les mêmes tensions vers le sens le plus profond d'un humble paradis qui est notre moi véritable, notre droit, notre liberté, notre second et véritable soleil moral.
La prose poétique d'Elitis, lui-même, si l'on peut dire, l'a théorisée. Il parle d'une écriture qui est dans la fluctuation. Fluctuation, c'est le mot qu'il emploie, pour désigner ce glissement de la poésie à la prose, de la prose à la poésie. Et de fait, quand on lit ce qu'il appelle ses proses poétiques, on ne cesse de passer d'un discours argumentatif, théorique parfois, philosophique, difficile, à une rêverie et à une succession d'images d'une grande beauté. Et il y a ainsi un va-et-vient.
J'ai eu le grand honneur d'être non seulement son éditeur, mais une de ses amies très proches.
Chrissy Caridi, éditrice.
Il a bien formé ma vie, ma personnalité. C'était pour moi quelqu'un de très précieux. Mon père était non seulement son éditeur, mais un de ses amis très proches. C'était une grande pareille. Un groupe d'amis, Carolo Schoun, le metteur en scène, Nikos Gatsos, un autre poète grec, Marios Pleuritis, journaliste. Ils adoptaient le même respect pour la grécité, le même amour pour ce que la Grèce était. Elitis a passé un très grand séjour en France et ça l'a imprégné dans la modernité européenne. Mais justement, ça lui a donné l'occasion de redécouvrir la grécité d'un nouvel œil. Il a commencé à publier ses livres à la maison d'édition Icaros en 1959, en publiant Actionisti. Et puis, ça a continué pendant toute sa vie. La plupart de ses œuvres sont à Icaros. Il a écrit qu'un livre n'est pas seulement un moyen de propagation des idées, mais aussi un instrument dont le thème même vous prépare pour la musique que vous allez entendre. Il donnait grande importance à l'apparition du livre. Tous ses livres avaient un frontispice, c'est-à-dire une page illustrée juste avant la page du titre, et aussi, du même artiste, une vignette sur la couverture. Ces artistes, bien sûr, appartenaient aussi dans le groupe des amis. Alors, la vignette et le frontispice faisaient partie de la physionomie du livre. Ça donnait à chaque œuvre son identité. Il avait des idées très fermes de ce qu'il voulait, de la façon dont il voulait présenter chaque mot. Ce n'était pas quelqu'un de difficile. C'était quelqu'un qui voulait faciliter pour que le résultat soit excellent, voilà.
Prix Nobel de littérature, le poète grec Odysseus Elitis.
Antenne 2, journal de 20h, 18 octobre 1979.
Le dernier prix Nobel 79, celui de littérature, le plus prestigieux peut-être avec celui de la paix, il a été attribué à un poète grec, Odysseus Elitis, poète peu connu, confidentiel même, y compris par les Grecs.
Très touché par la décision de l'Académie suédoise. Je pense qu'elle a voulu honorer en ma personne toute la poésie grecque en général et d'attirer l'attention du public universel sur la poésie grecque qui représente la plus longue tradition dans notre civilisation occidentale.
Στην πορεία, μια σημαντική, αν θέλετε, για
Ιουλίτα Ηλιοπούλου.
Όχι μόνο τους Έλληνες και όσους αγαπούν τη λογοτεχνία, είναι βέβαια το 1979.
Un autre moment important.
Όταν βραβεύτηκε με τον
Νόμπελ. Pour les Grecs et les amateurs de littérature.
Πολύ σημαντική χρονική στιγμή.
A été évidemment la réception du prix Nobel par Elitis en 1979.
Τα ελληνικά δυστυχώς μιλούνται.
C'est très important. Car si nous sommes un pays à l'histoire immense, la langue grecque est parlée par une proportion très faible de la population mondiale. Et il était très difficile, dans une période aussi courte, puisque Séphéris avait reçu le Nobel en 1963, que la même langue, une langue minoritaire, et qui plus est la langue poétique, soit à nouveau récompensée. C'était donc primordial. Et cela a donné un grand élan aux traductions. Aujourd'hui, leur nombre est très important. Il y a plus de 40 langues et idiomes dans lesquels la langue d'Elitis est traduite. Elitis lui-même a tenté de répondre autant que possible aux obligations qu'entraînait le Nobel. Mais après un ou deux ans, il est revenu entièrement à son travail comme avant, créant beaucoup d'œuvres après le prix. Et c'est là ce qui est remarquable. Je ne parle pas seulement de livres très importants, comme les élégies d'Oxopétra ou À l'ouest de la tristesse, mais aussi du Petit Navigateur, de textes en prose, de peinture et de collage. Il a été très productif jusqu'à la fin de sa vie. Il s'est éteint en mars 1996.
Je crois qu'il était bien réconcilié avec le temps qui passe.
Chrissy Caridi.
Il disait qu'il a eu de la chance parce que son occupation n'avait pas besoin de force physique. Par exemple, il me disait si j'étais sculpteur ou conducteur de musique, oh, je ne pourrais pas. Mais lui, il pouvait écrire même jusqu'aux ses derniers jours. Il n'était pas très âgé quand il est mort. Il avait 85 ans. Il était jeune. Il aimait beaucoup les jeunes gens. Il discutait avec des jeunes. Il était indulgent. Il comprenait leurs problèmes. Il donnait des conseils. Le rapport avec la jeunesse était quelque chose qui lui plaisait. Un certain nombre de jeunes hommes et jeunes femmes ont eu la chance de l'avoir comme ami très proche. Moi, par exemple, moi aussi, j'ai été jeune. J'ai beaucoup profité de ses conseils et de ses leçons de vivre. Le respect pour l'homme, la modestie, croire à ses principes et les défendre. J'avais l'habitude de le visiter dans l'après-midi, prendre un whisky ensemble, fumer une cigarette. Et alors, il me disait toujours, mais tu es en retard, je t'attendais pour fumer ma cigarette, pourquoi es-tu en retard ?
Θα πλώσουμε τα χέρια μας τώρα που δεν μας λογαριάζει πια ο καιρός. Κατά που θα αφήσουμε τα μάτια μας τώρα που οι μακρινές γραμμές να βάγισαν στα σύννεφα. Κι είμαστε μόνοι ολομόναχοι, τριγυρισμένοι απ' τις νεκρές εικόνες σου. Κι είμαστε μόνοι ολομόναχοι, τριγυρισμένοι απ' τις νεκρές εικόνες σου. Πριν απ' τα μάτια μου ήσουν φως, πριν απ' τον έρωτα έρωτας. Κι όταν σε πήρε το φιλί γυναίκα.
Αυτό που χαρακτηρίζει ίσως περισσότερο από όλο την ποίηση του Ελίτη
Paola Maria Minucci.
Ce qui caractérise peut-être plus que tout la poésie d'Elitis, c'est une double approche. Dans sa personnalité comme dans toute son œuvre poétique, on rencontre des éléments en double. Par exemple, Elitis est sans aucun doute un poète européen, mais il est avant tout un poète grec. Certes, il s'agit d'une Grèce qui n'est pas la Grèce réelle, mais une Grèce du désir. Il n'en demeure pas moins grec. Sa langue est le grec. Elitis est un poète moderne, mais en même temps un poète traditionnel, car il puise ses racines dans la poésie antique et dans la poésie byzantine. Elitis est un poète fidèle à lui-même, mais à chaque recueil, il est aussi un poète nouveau. Il ne se répète jamais, ce qui est très singulier. Chez Elitis, il n'existe pas de manière. Chaque recueil est différent. Elitis est un poète de la lumière, du soleil, mais il est aussi un poète de l'obscurité, de l'exploration intérieure. Il est un poète des contraires. Ce sont des contraires, mais finalement, dans sa poésie, ce n'en sont plus. Et c'est là tout le cheminement de son œuvre poétique. Vers la fin, dans ses derniers recueils, cette dualité n'existe plus, elle se résorbe. Et tel était son effort, que les contraires se fondent pour finir par s'unifier.
Le petit navigateur. J'ai habité une terre qui sortait de l'autre, la réelle, comme le rêve des événements de ma vie. Je la nommais elle aussi Grèce, et je la dessinais sur le papier pour la regarder. Elle semblait si mince, si insaisissable. Plus le temps passait, plus je la mettais à l'épreuve, avec des séismes soudains, avec d'authentiques tempêtes anciennes. Je changeais la place des choses pour les dégager de toute valeur. J'étudiais ce qui dans la nature jamais ne dort et ce qui garde le silence, pour être digne de construire des collines brunes, des petits monastères, des fontaines. J'allais jusqu'à inventer un jardin tout entier plein d'agrumes qui sentaient Héraclite et Archiloque. Mais le parfum était si fort que je pris peur et je me mis tout doucement à sertir des paroles comme des diamants pour couvrir la terre que j'aimais, de peur qu'on aperçoive la beauté ou qu'on ne soupçonne que peut-être elle n'existe pas.
Je pense qu'Elitis a toujours beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. Car notre époque s'est engluée dans la matière. Il n'y a plus d'ouverture vers le haut, tandis qu'Elitis nous montre justement cette voie. C'est une leçon qu'il nous donne. Il nous offre une porte de salut. Elitis dit que la langue doit retrouver le sens originel des mots. Car aujourd'hui, comme il le dit, la mer n'est plus la mer, l'amour n'est plus l'amour. Nous devons retrouver en poésie un moyen de faire que la mer redevienne la mer et l'amour, l'amour.
Nin ton laon to amalgama και ο μαύρος αριθμός εν της δίκης το άγαλμα και ο μέγας οφθαλμός. Νυν η ταπείνωση των θεών, νυν η σποδός του ανθρώπου, νυν, νυν το μηδέν, και εν ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας.
C'était Οδυσσέας Ηλίτης, Le Verbe et la Lumière, avec Ioulita Iliopoulou, poète, Chrissy Caridi, éditrice, Paola Maria Minucci, professeure de littérature et traductrice, Christos Nikou, enseignant-chercheur à l'Université du Pirée, Malamati Soufarapis, professeure de lettres et traductrice. Prise de son, Johanna Gabrich, Guillaume Ledu, Pierrick Charles, Marie-Claire Oumabadi. Mixage, Claire Levasseur. Documentation, Annelise Signoret. Documentation, Ina Clary Monac. Documentation musicale, Antoine Huilloz. Chargée de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin. Un documentaire de Yorgos Archimandritis, réalisé par Laure-Hélène Planchet. Vous pouvez réécouter et podcaster ce documentaire sur le site de France Culture et l'application Radio France.